Michael l'a dit, de clôturer quelques messages qui ont été énoncés devant vous. Le premier, c'est « Prenez courage ». Dieu nous a avertis des événements tels que nous les vivons, et encore, ce n'est que le début de l'iceberg. Il nous invitait à rester debout comme des sentinelles, avertis de la parole de leur Dieu pour répondre au monde. Et pour répondre aux disciples que nous sommes et qui étaient du temps de Jésus, ses contemporains, il interrogeait, dis-nous un peu quand est-ce que ces événements de la fin des temps vont arriver. Jésus leur disait, regardez Israël. Et nous avons ensemble regardé ce qui se passe en Israël. Ce matin, je voudrais clôturer en essayant de ne pas trop ouvrir de parenthèses, parce que plus on fouille la parole de Dieu, plus elle est riche, et plus les pensées sont émerveillées par ce que Dieu nous dit. Alors ce matin, la conclusion, je vous la donne. Bien-aimé, courage. La délivrance est proche. Le Seigneur revient. Et si je pouvais synthétiser par une parole du livre d'Habacuc, de l'Habacuc, chapitre 1er, qui est reprise à deux reprises par l'apôtre Paul et par l'épître aux Hébreux, le juste vivra par la foi. Le juste vivra en restant ferme, debout, par la grâce de Dieu, appuyé sur ses promesses, persévérant jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Je voudrais lire avec vous, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. Matthieu 13, verset 24, dans ce sujet qui est la fin des temps. Et ce matin, nous nous proposerons de regarder spécialement ce qui se passe dans ce monde. Matthieu, au chapitre 13, verset 24. J'ai bien dit ça. Matthieu 13, verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et puis s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et dirent au maître, « Seigneur, as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Entre parenthèses, arracher l'ivraie. « Non, dit le maître, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, le bon grain. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez l'ivraie. Et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amasser le blé dans vos greniers. » Et pour comprendre cette parabole, le Seigneur prend ses disciples, les met à l'écart, comme nous, dans l'intimité du Seigneur, puisque là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est là, Son esprit est là pour nous conduire dans la vérité et nous écoutons. Nous lisons ensemble l'explication de cette parabole que Jésus donne à ses disciples au verset 36. Alors, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous un peu la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, quand on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettre l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, et l'exhortation à nous est faite que ceux qui ont des oreilles pour entendre, si Dieu existe, pourquoi tant de cruauté? Pourquoi tant de violence? Et comme je le disais, on ne voit que le sommet de l'iceberg. Nous allons le découvrir. Pour un peu cerner cette agressivité méconnue de la plupart d'entre nous, puisque chaque jour, on découvre de plus en plus cette cruauté, cette agressivité. On pensait hier qu'on en avait fini, qu'on était arrivé au maximum, et de jour en jour, les maximums se déplacent et deviennent de plus en plus graves. Alors, pour faire étalage de toutes ces cruautés, nous n'allons pas jouer au journal télévisé, et je vous l'envoie à vos médias, je vous l'envoie aux journaux. Et qu'on le veuille ou non, nos cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, sont agressés. Dire que demain, je ne pourrai moi plus manger de bonnes frites belges. Telle est la dernière constatation entendue hier. Et tout cela fait que mes pensées de chrétien, d'enfant de Dieu, affermis dans la parole de Dieu, sont ébranlées. On nous empoisonne. Ce qui était bien hier ne l'est plus aujourd'hui. Suis-je moins stressé qu'hier? Suis-je moins ébranlé qu'hier? Est-ce qu'il y a une meilleure sécurité pour moi? On n'est pas rassuré, malgré que les hommes inquiètent énonce de nouvelles lois, soi-disant pour nous sécuriser. Et l'homme cherche constamment à contourner ces lois. Le monde cherche en vain des solutions à cette spirale de cruauté. Il attend l'homme du miracle. Moi aussi j'attends l'homme du miracle. Le monde, son homme, vient d'en bas. du prince de l'air, Satan lui-même. Moi, j'attends un homme qui est mon Seigneur, qui est mon Sauveur. C'est l'homme qui fit Jésus et vient d'en haut. Parce que c'est de là que vient la délivrance. Et le monde, dans son aveuglement, lève le poing vers le ciel pour accuser Dieu de tous ses maux. Et comme Dieu est invisible, semble muet à ses cris, il dresse alors son poing en accusation vers les chrétiens, en les accusant eux aussi de tous les maux de la terre. Dis donc un peu, toi, chrétien, où est ton Dieu? Pourquoi n'intervient-il pas dans les choses du monde? Pourquoi y a-t-il tant d'horreurs, tant de misères, tant de souffrances, tant de cataclysmes, tant de haine, tant de divisions, d'injustices, de drames, de guerres? Pourquoi le Dieu argent continue-t-il à écraser le pauvre, le mépriser, et s'enrichir lui, et davantage écraser le pauvre? Et personnellement, j'avoue que face à certaines philosophies que contiennent ces accusations, je me sens désarmé, sans argument, et mes pensées sont agitées, alors que je connais les promesses de mon Dieu. Je suis muet, et je suis entraîné parfois, tiens, c'est juste ce qu'ils disent ou pas? Leurs arguments sont néfastes. Pourtant, nous sommes enfants de Dieu, aussi scandalisés que ceux du monde. Parce que nous partageons les mêmes souffrances, nous partageons les mêmes tribulations, nous partageons les mêmes cataclysmes. Et je sais tenter de dire que ma tristesse, notre tristesse est davantage plus grande, elle est même doublée, parce que je souffre en tant qu'être humain, surtout lorsqu'on s'adresse à des innocents, à des enfants, mais parce que le nom de mon Seigneur est déshonoré. Je souffre de cela. Pourtant, du bien il y en a, mais il est occulté par une montagne de mensonges et de malhonnêteté. À nous qui sommes dans ces temps fâcheux de la fin, serions-nous les seuls à être bouleversés par l'esprit de ce monde? J'avais pensé lire avec vous quelques histoires, mais je me contenterai de les souligner brièvement devant vous, et j'espère avoir suscité la curiosité en votre esprit pour aller rechercher ce que je vous dis. Le premier, c'est au psaume 73, Asaph. Asaph regarde tout ce qui se passe autour de lui, et qu'est-ce qu'il dit? Le méchant prospère. Le méchant est constamment heureux. Et moi, je désespère. À quoi ça sert de te servir et de te suivre? Voilà les pensées qui agitent les pensées d'Asaph lorsqu'il regarde autour de lui. Et les choses vont basculer lorsque Asaph se ressaisit et pense à ce que Dieu est, a fait et fera. Lorsqu'il rentre dans la présence de son Dieu et qu'il commence à prendre le temps de l'écouter, Asaph disait, « Ah, j'étais un homme stupide et sans intelligence. » J'ai changé d'opinion lorsque je suis rentré dans ta présence. Et quand on lit les derniers versets de ce psaume qui commence, mon pied était sur le point de chanceler, Mais mes pensées étaient troublées. Voilà comment, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, face à tout ce qui nous entoure, quel autre, dit Asaph, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, pleine de catastrophes, pleine de misère, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon cœur et ma chair peuvent se consumer. Tu es mon Dieu, constamment le rocher de mon cœur et mon partage. Eux s'éloignent, mais ils périront. Moi, je suis toujours devant toi et avec toi. J'aurais voulu partager avec vous un psaume du pèlerin qui s'en va vers Jérusalem, vers la maison de son Dieu. Je ne connais pas l'auteur de ce psaume 121, mais je sais que ce psaume reflète une grande détresse. Et le psalmiste cherche du secours. Et voilà ce qu'il dit. Je lève mes yeux vers les montagnes, vers les puissances de ce monde. Est-ce que ce sont elles qui vont me secourir? Et le psalmiste de se ressaisir et de dire, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et il décrit de manière merveilleuse ce qu'est son Dieu pour lui. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne dort ni ne sommeille celui qui te garde. Il garde ton départ, le jour, la nuit, constamment. Quelle est, quand on rentre dans la présence de Dieu, des pensées qui deviennent paisibles. Le cœur est inondé de la paix de Dieu, parce qu'il est fidèle. J'aurais voulu parler aussi d'Habacuc, un petit prophète, dont on lit très peu le livre, trois petits chapitres. Et pourtant, je serais tenté de dire que c'est un petit prophète, mais dont les paroles sont d'actualité profonde. Quand nous avons étudié, nous continuerons le livre de Malachie, on voit ce dialogue entre Dieu et le peuple. Ah, tu nous dis que tu nous aimes. Montre-le-nous, disait le peuple à Dieu. Habacuc, si je pouvais résumer sa vie, je dirais que c'est un prophète d'une très grande honnêteté. Il n'est pas hypocrite du tout. C'est un homme de Dieu qui se pose mille et une questions et il ose dire à son Dieu pourquoi. Quand est-ce que tu vas arrêter toute cette misère? Et puis quand Dieu répond, il ne comprend pas de quelle manière Dieu répond. Je viens te dire pourquoi il y a de l'injustice et tu me réponds par un peuple qui est encore plus injuste. Quand est-ce que tu vas me faire comprendre? Et Habacuc est constamment dans cette relation de question, de pourquoi, avec son Dieu. Et Habacuc, à un moment donné, lui aussi a décidé de s'asseoir et d'écouter son Dieu. Et quand on lit le dernier chapitre, on découvre toute la beauté d'un psaume merveilleux, d'un chant de louange, d'un chant de reconnaissance, d'adoration qu'Habacuc fait monter à l'Éternel. Son livre se termine donc par ce chant dont je vous lis deux versets. Toutefois, c'est bien la conséquence de quelqu'un qui est dans la détresse en regardant ce qui est autour de lui et qui, quand il rentre dans la présence de Dieu, dans l'adoration, c'est-à-dire dans la contemplation de ce que Dieu est, dans sa fidélité d'âge en âge. Lorsque nous contemplons que ce Dieu est le maître de l'histoire, et que dans les apparences, ce n'est pas évident pour nous, mais il est le maître de l'histoire, écoutez ce qu'Habacuc dit.
Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Et pour vous dire que c'est bien un psaume, les dernières paroles sont au chef des chants avec l'instrument à cordes. C'est lui qui dira le juste vivra par la foi. Et combien nous avons besoin de vivre dans ces temps difficiles de la fin, combien nous avons besoin de nous retrouver dans la présence de Dieu et de nous dire, Seigneur, tu es le maître. Et je me plie à ta volonté. Le juste vivra par la foi. Pour me permettre de voir fou, je demandais, et peut-être à Jean-François, vers Jésus lève les yeux. Voilà. Qui sera un peu le résumé de cette première partie du message. Vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves les yeux vers Jésus. Oui, on peut se lever. Sont peut-être pour plusieurs des obstacles à venir à Jésus-Christ. Nous sommes dans une époque de grande confusion, dans une spirale infernale où le bien et le mal se mélangent et où nous n'arrivons plus à discerner où est l'un et où est l'autre. Les références d'hier ont changé. Elles sont bafouées, elles sont ridiculisées. Et dans la recherche de la liberté, le monde s'est placé volontairement sous le joug d'un maître cruel, déjà depuis le jardin d'Éden. Son nom, c'est le diable, c'est l'usurpateur, c'est le menteur, c'est celui qui est le meurtrier, celui qui est l'ennemi de Dieu et des hommes, celui qui fait peser sur les hommes un joug terrible de cruauté.
Son nom, c'est le diable, c'est Satan. Et face à cela, je me pose, moi, puisqu'on a parlé de sentinelles, que montrent les chrétiens face à ce monde? Que montre l'Église d'aujourd'hui, celle qui se revendique du nom de Jésus-Christ? Est-elle encore porteuse du message de l'Évangile? Est-elle porteuse du message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ et de l'espérance vivante? Déjà du temps de l'apôtre Paul, il pouvait avertir ceux de Corinthe et de Galate en leur disant « Prenez garde à ceux qui viendront avec un autre évangile. Prenez garde à ceux qui viendront avec un autre Jésus-Christ. Prenez garde à ceux qui viendront avec un autre esprit que l'Esprit de Dieu. Prenez garde à cela. Ne vous laissez pas troubler. Mettez-les dehors. Ne les écoutez pas, ne leur permettez pas de vous enseigner. » Mais cet état des choses, existant déjà du temps de l'apôtre Paul, elle se réalise encore plus sous nos yeux aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus l'a déjà prophétisé dans son évangile dont nous l'avons lu ce matin au travers d'une parabole. Le blé est livré. En Orient, il arrivait qu'on se vengeait de son ennemi en jetant dans son champ nouvellement ensemencé quelques mauvaises semences, qui en le vent empoisonnaient le champ et en même temps le propriétaire. Cette mauvaise herbe livrée, elle est très sournoise. Elle ressemble tellement bien au bon grain, tant qu'elle est en herbe. Mais l'ivraie se différencie lorsqu'elle arrive à maturité, lorsque la moisson est blanche. L'ivraie va se différencier par son fruit. Le serviteur du propriétaire du champ s'aperçoit de la présence de l'ivraie dans le champ et veulent arracher l'ivraie. Et le maître du champ leur dit: pas encore, attendez, patience. Mais pourquoi doit-on attendre? Parce qu'en déracinant l'ivraie, vous risqueriez d'atteindre les fondements même de ce bon grain. On attend, on intervient un peu plus tard. Pourtant, tout le champ est infecté. Tout le champ soupire après des jours meilleurs. Mais quand? À la moisson, car c'est alors que la différence entre le blé et l'ivraie se fera évidente. Et c'est alors que Jésus enverra des moissonneurs, des anges, pour faire le tri et engranger dans son grenier céleste le bon grain et envoyer dans un endroit réservé au diable et à ses anges qui ont chuté avec lui, ceux qui ont daigné se soumettre au diable. Le monde, avons-nous lu dans l'explication que Jésus donne à cette parabole, le monde est comme ce champ, où le divin semeur, Dieu lui-même, est venu semer de la bonne graine, du bon blé. L'amour, la paix, la joie, la patience, la vérité, la justice, la vie. Et voilà qu'un autre semeur, quand ceux qui devaient garder le jardin ont été plus attentifs, rappelons-nous ce que nous avons entendu. Adam et Ève n'ont pas su garder. L'ennemi de Dieu s'est sournoisement introduit dans le champ. Et un autre semeur, mal intentionné, a profité du manque de surveillance pour venir empoisonner le champ, le monde, en jetant de l'ivraie. Connaissez-vous le mot grec utilisé dans les évangiles et qui est traduit en français par ivré, zizanie. L'ennemi est venu semer la zizanie, c'est-à-dire les disputes, les révoltes, les querelles. Tout ça parce qu'il est l'ennemi de Dieu, il est l'ennemi du bien, il est celui qui veut du mal, il est l'usurpateur, il veut se faire passer pour Dieu. Il est le séducteur, le menteur, le tueur. Il n'a d'autre but que de vous mettre sous son joug. Et sa manière d'agir est tellement sournoise qu'il est venu semer la zizanie la nuit. Et nous avons dit que depuis la création, depuis le jardin d'Éden, le diable a semé tout cela dans le cœur de la création de Dieu, entraînant ainsi l'homme à sa suite dans une situation de révolte contre Dieu, dans une situation de ruine par rapport à Dieu, dont le fruit est le péché avec son fruit, un cortège de souffrance, de violence, de cruauté, de mort. Ah, si l'ennemi s'était présenté à nous en lion rugissant, on l'aurait entendu grogner. Mais non, il se fait passer pour un ange de lumière. Ah, s'il était venu, non pas avec des semences, il s'est venu semer des orties, des chardons. En allant dans le champ, on aurait pu se piquer, on aurait dit, oh là, attention, non. Tellement sur moi qu'il sait quelque chose qui est de la contrefaçon, mais qui va engendrer des malédictions sans fin. Bien-aimé, c'est dans ce monde pervers et corrompu que Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils bien-aimé. Et ceux qui sont unis à lui, Jésus les envoie dans ce monde pour être sentinelles, pour être témoins de la grâce de Dieu et aussi les avertir. Le jugement est proche. Paul, écrivant à son enfant Timothée, pouvait décrire la situation du monde déjà d'alors. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. L'amour du plus grand nombre se diminuera, diminuera. Et puis, il énonce là. Et plus que cela, voilà que l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, va plus loin en disant: ok, il y a des derniers temps qui ont commencé, qui étaient déjà visibles du temps de l'apôtre Paul, et Paul de dire à son enfant Timothée, mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes, et je vais citer quelques-uns, mais je vous invite à le lire là dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, hypocrites. Ils apprennent toujours plus par Internet et ne connaissent rien de la volonté de Dieu et des pensées de Dieu. Et Paul te dit, prends garde à ces gens-là, éloigne-toi d'eux. Bien-aimé, la Bible est claire lorsqu'elle dit qu'il ira de mal en pire. On ne comprend pas toujours tout. Vous avez raison, moi non plus, je ne comprends pas tout. Tout ce qui se passe dans le monde, alors on est étonné de découvrir encore la FIFA, là. Qu'est-ce que c'est de ce bazar, là? Alors on croyait ce comité...
intègre, et voilà qui est en train d'être sous table, là-dessous. Le sport devient acheté, provoqué. Voilà, bon, bref, voilà, c'est la nature humaine qui est comme cela. Et on ne comprend pas, et on s'étonne de découvrir encore des choses plus graves, et on n'en est pas à la fin, et on ne comprend pas tout ce qui se passe. Parce que ce mal, selon la parole de Dieu, 2 Timothée chapitre 2 verset 7, ce mal est le mystère de l'iniquité. Mystère, c'est-à-dire quelque chose qui est encore caché, mais que se rase lorsque ce qui retient ce mystère d'éclater à la face du monde, lorsque ce qui le retient, à savoir le Saint-Esprit et l'Église, auront quitté cette terre. Plus rien ne viendra freiner le mal. C'est pourquoi je disais, où en es-tu, Église de Jésus-Christ? Plus rien ne viendra arrêter ce mal. Il sera sans fin. L'homme qui sera sur cette terre sera obligé de se soumettre au joug de Satan. Parce que l'homme d'iniquité, à qui Satan aura donné tout pouvoir, il dira, celui qui ne se soumet pas à cet homme de péché, cet homme d'iniquité, ne pourra ni acheter ni vendre. Bien aimé, ce sera terrible. Raison de plus de nous avertir, d'être des sentinelles pour le monde qui périt. On ne comprend pas tout. Mais faut-il faire de cette méconnaissance un tremplin vers l'incrédulité et vers le doute? Je ne comprends pas, dit le monde. Et disent peut-être certains parmi nous, je ne comprends pas, donc je ne crois pas. Qu'attendent les hommes de ce monde de la part de Dieu qu'il intervienne? Pour qui? Pour les filles violées? Pour les bébés qui sont tués, mis dans les congélateurs, que les mères oublient? Pour les enfants battus, pour les enfants qui sont utilisés comme boucliers humains dans les guerres, partout dans le monde. J'ouvre une parenthèse, savez-vous qu'environ 3 millions d'enfants sont abusés dans le monde, sont violés, et on est peut-être en dessous de la réalité. 3 millions. Et que ceux qui abusent sont recensés. C'est peut-être le sommet de l'iceberg, car je ne sais pas ce qui se passe en dessous. Sont le ceux qui l'on perçoit serait au nombre de 200 millions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu fait avec tous ces gens? Les enfants dans les prisons, on est déjà surpeuplés chez nous. On les envoie déjà en Hollande. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Mais qu'il règle tout tant qu'il est là. Les injustices, les problèmes de famille, les problèmes ethniques entre peuples, le problème au Moyen-Orient, en Afrique, dans le monde, quoi. Hein? Les enfants exploités, les offres porno, la drogue, mettre l'autre aussi dans le blanchiment des argent, de l'argent, mettre sous table, bien régler le problème du chômage, ces multinationales qui s'en vont ailleurs, et tout ça, Seigneur. Règle toutes ces violences au nom de la religion. Il y a un bouillon infernal dans ce champ, dans la marmite, et on vient de mettre le couvercle. Ça, c'est Dieu. Non. On veut que Dieu fasse le gendarme. Il t'a donné l'intelligence, toi, homme, pour faire le gendarme. Il t'a même donné un support législatif, la loi de Dieu. Que fait Dieu de cette loi? Que faisons-nous, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, de la loi, des ordonnances, de la parole de Dieu? Que faisons-nous du sermon sur la montagne qui met tellement en évidence l'esprit même de ce décalogue? Et Dieu met l'ordre dans tous les problèmes, y compris dans mes querelles, dans ma jalousie, dans ma haine, dans mon manque d'amour, dans mon manque de pardon, dans mon égoïsme, dans mon avarice face à la faim, à la soif, face au SDF. Il met de l'ordre dans mes pensées, dans mes calomnies, dans mes ententes, dans mes actions secrètes, et que c'est pas beau quand on les met au grand jour. Dieu met de l'ordre là-dedans quand il vient. En fait, il met de l'ordre dans mon péché. Voici 2000 ans, bien-aimé. Le Fils unique de Dieu a consenti à venir régler au nom du Père, uni au Père, et par le Saint-Esprit, il est venu régler la question du péché. Et qu'a dit la foule? Retourne chez toi. Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Retourne chez toi, d'où tu es venu. Nous ne voulons pas que tu t'occupes de nos affaires. On est tellement bien assis dans l'ombre. Et toi, tu nous mets en lumière. Qu'est-ce que c'est de ça pour des attitudes? Jésus, bien-aimé, il est venu une fois pour régler la question du péché, pour qu'il n'y ait plus de meurtre, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Dieu a consenti, voici 2000 ans, au don infini de la croix du calvaire, plutôt que de voir sa créature à tout jamais enfouie dans le séjour des remords et des grincements de dents avec le diable. Dans ce temps que nous vivons, nous ne savons pas enlever, livrer la zizanie, l'ivresse du mal, sans mettre en péril, dit la parole de Dieu, sans mettre en péril le bon grain. Au moment de la moisson, qui est très proche, la séparation éternelle et définitive sera parfaite. Ceux qui se seront volontairement unis à Jésus-Christ, reconnaissant qu'il avait pris nos péchés, qu'il était mort pour moi, alors eux seront pour toujours avec le Seigneur. Refuser Jésus-Christ aujourd'hui, sous prétexte que nous ne connaissons pas tout ce mal, c'est refuser la croix du calvaire. Parce que c'est là que le crime le plus odieux de l'humanité a été manifesté. Contre Dieu lui-même. Jésus, Dieu fait chair. La croix est le symbole de toute la cruauté de l'humanité. De toute la misère. Peut-être que vous dites, bon, moi je n'ai jamais fait de tels actes. Peut-être. Mais sachez que vous êtes atteint par la même maladie. Parce que qui ose lever son petit doigt en disant, moi dans mes pensées, je n'ai jamais pensé comme cela. Je n'ai jamais été en colère, je n'ai jamais été en rébellion. Même si vous vous sentez brave, vous avez besoin d'être réconcilié avec Dieu. Sinon, la colère de Dieu baisse constamment sur vous. Un jour, Dieu dira, stop, fini. J'en ai assez. Et il me semble que ce jour est proche. Lorsque je vois la moisson de violence qu'il y a dans le monde. Et en ce jour, le Seigneur viendra lui-même, au son de la trompette, à la voix d'archange, enlever son église, mais viendra aussi, pour un peu de temps après, il viendra mettre de l'ordre dans le problème de ce mal. Alors, s'il y a quelque chose, un conseil à donner, qu'as-tu choisi?
Jésus ou le diable. Aujourd'hui, Dieu te supplie de choisir le bon camp. Cela ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas la souffrance. Ça ne veut pas dire que tu ne connaîtras plus les tribulations. Mais Jésus te donnera sa paix. Il t'assurera d'un jour meilleur pour toute l'éternité et les prochains jours. Si le mal n'est pas arrêté aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas. C'est parce que Dieu, dans sa grâce, t'attend. Il ne veut pas que tu meures. Il ne veut pas que tu ailles dans le lieu de détresse avec le diable. Il ne veut pas que tu subisses pendant toute l'éternité ces remords. J'ai entendu à un moment donné l'appel du Seigneur et je l'ai refusé. Dieu ne veut pas que tu aies ce remords de jour en jour d'éternité. Mais qu'est-ce que tu dois être? Est-ce que vous avez déjà eu un remords dans votre vie? Ah, j'aurais dû faire cela. On l'a un jour, quelques minutes. Mais là, d'éternité en éternité, mon devoir, c'est de vous avertir que le jour est proche où ce choix sera scellé pour toute l'éternité. Ton choix, il t'attend. C'est pas qu'il ne veut pas mettre fin, bientôt oui, mais pour l'instant, il t'attend et il te dit, viens à moi, viens à Jésus-Christ. Et Jésus te dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle que soit la montagne de souffrance, de péché, de cruauté, de violence, commise ou dans tes pensées, Dieu ne rejette personne. Alors, pour cela, rappelle-toi que Dieu a ancré sur la terre son amour par la croix synonyme de jugement et de grâce. Où es-tu? Dans la grâce de Dieu ou dans la colère qui attire le jugement sur son monde? À toi de décider de quitter les ténèbres, le règne de Satan, du péché, et de venir à la lumière. Réponse à tous les pourquoi. Ok, c'est bien. Et on ne sait pas. Et pourtant, il y a un pourquoi qui est très important. C'est celui que Jésus a crié sur la croix du calvaire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour que si tu crois en lui, tu ne le sois jamais. Dieu attend ta réponse. Pas tantôt, maintenant. Son amour souffre de ton obstination. Son amour veut te serrer dans ses bras et te dit viens. Et son amour est tellement parfait qu'il prend ta cause en main. Et comme il le disait au travers d'un prophète, viens et plaidons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, autrement dit, s'ils sont rouges comme le sang qui a été versé par mon fils bien-aimé à la croix du calvaire, si vos péchés sont comme cela, ils deviendront blancs comme la neige. Vous êtes peut-être membre d'une église. Je ne vous demande pas si vous venez aux réunions que l'église organise. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vous demande pas si vous chantez avec nous. C'est bien. Et ça m'encourage. Je ne vous demande pas si vous lisez votre Bible tous les jours. C'est bien. Ce n'est pas l'objet de ma question. Je ne vous demande pas si vos parents, votre époux, votre conjoint est chrétien.
tourmente pas ça. Je te demande ce matin, au nom du Seigneur, à qui es-tu uni? À Jésus-Christ ou au diable? Ton Père est-il le Père de Jésus-Christ? Ou ton Père, c'est le prince de ce monde? Es-tu devenu par la force même du Saint-Esprit en toi, lorsque tu es devenu nouvelle création en Jésus-Christ, es-tu devenu un bon grain que Dieu envoie dans le monde pour porter sa semence? Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il mette sur nos cœurs, enfants de Dieu, sur le cœur de l'Église, le souci des âmes qui se perdent, parce que le temps est proche. Et pour vous qui n'avez pas encore saisi cette grâce en Jésus-Christ, ne le mets pas plus tard. Sois sauvé dès maintenant, en venant à Jésus-Christ. Et si les moments que nous vivons sont pour les uns plus pénibles que d'autres, rentre dans la présence de ton Dieu. Adore-le et reçois cette promesse pour toi. Tu ne périras jamais. Personne ne t'ôtera de mes mains ni de la main de mon Père. Tu es à moi. Tu es précieux. Regarde, c'est ce qu'il nous montrera dans le ciel. Regarde, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Nous prions et puis je cède la parole. Seigneur, ce matin, nous prenons conscience que ta parole est sévère pour nous. Pour que nous puissions continuellement dans ce monde troublé, ne pas nous laisser emporter par les pensées de ce monde, mais d'être des sentinelles qui gardons le drapeau de la foi bien élevé, comme un étendard. Garde-nous, Seigneur, pour être des hommes fidèles, et merci pour ton intercession en notre faveur. Et Seigneur, nous réitérons cette demande en faveur de ceux qui ne te connaissent pas. Le temps est proche où la grâce cessera. Et je te demande, Seigneur, que tu interviennes en grâce dans nos familles, dans notre quartier, auprès de nos voisins, parmi nos enfants, petits-enfants. Seigneur, nous réclamons ton intervention dans leur vie. Parce qu'au travers de ta parole, nous avons découvert que des temps fâcheux vont arriver. Seigneur, interviens. On ne sait pas toujours comment agir, mais tu nous demandes d'être de simples témoins, d'être des ambassadeurs de la cité d'en haut, du ciel. Donne-nous, Seigneur, d'être fermes dans la foi, d'avoir les yeux fixés vers le ciel, d'où nous vient le secours. C'est ce que je demande, Père, en ton nom béni et au nom du Seigneur Jésus.